passe à l'ouest.
Ça fait une bonne centaine d'années que la RTS a vu le jour en Suisse. Ce siècle ne s'est pas toujours fait comme un long fleuve tranquille, mais le média public suisse tient bon. Revenir sur cette épopée et faire résonner les bouleversements du passé avec ceux d'aujourd'hui, c'est le thème de 100 ans de radio-télévision de François Voloton. Bonjour François.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être là avec nous. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, si je me rappelle bien de mes cours de l'Uni, quand on parlait d'apparition de la télévision, on n'avait pas toujours une réaction positive de la part de la radio. Comment ça s'est passé justement, cette apparition de la TV et la réaction de la radio avant de voir cette convergence de ces deux médias ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été d'une certaine manière la même chose pour la radio. Chaque nouveau média a besoin d'un peu de temps pour s'acclimater. Mais il est vrai que la télévision bouleversait le paysage médiatique. D'une part, il y avait des grandes craintes des milieux de la presse, hein, qui pensaient que la radio, en matière d'information, allait empiéter sur leur plate-bande, si je puis dire. Et donc, il y a eu très vite des frictions avec les milieux de la presse. Et puis, la radio voyait également la télévision un peu comme une concurrence, et les gens qui étaient attachés à la radio craignaient que, avec la télévision, finalement les moyens attribués à la radio diminuent. Et puis par ailleurs, il y a des choses qui sont de l'ordre plus culturel. La télévision était vue comme une sorte de média de masse qui risquait d'avoir une influence néfaste, notamment par rapport à la jeunesse. Et puis, cela représentait pour certains une forme, disons, de média trivial, alors que la radio, à cette époque, avait une image, disons, plus élevée.
Au même titre que la presse qui voyait d'un mauvais œil l'arrivée de la radio, il y a peut-être une question d'hiérarchie, un petit peu de finesse, de raffinement, peut-être, entre ces différents médias, en tout cas du point de vue de l'un envers l'autre.
Exactement. Ensuite, et c'est une des perspectives que j'essaye de développer dans mon livre, c'est de montrer finalement que ces deux médias ont, d'une certaine manière, trouver leur rythme, trouver une programmation qui, d'une certaine manière, est complémentaire. Et donc, pendant longtemps, la télévision est uniquement un média du soir, avec justement un assez fort accent sur l'actualité, qui, pendant longtemps, est encore relativement bridée à la radio, et un gros accent sur notamment l'actualité internationale, le reportage, donc cette idée de la télévision comme fenêtre sur le monde. Et puis la radio, elle va devoir également un peu retrouver ses marques. Alors justement, en devenant aussi une radio qui va gagner en autonomie au niveau de l'information, mais peut-être plus une information régionale, et puis qui va essayer de développer un contact privilégié avec les auditeurs, en essayant notamment de sortir du studio, de développer des contacts sur tout le territoire de la Suisse romande. Hein, la radio est véritablement connue, et s'il y a des vedettes radiophoniques dans les années 60-70, c'est pas seulement parce que il y a des animateurs et des animatrices qui sont populaires, mais parce que le public peut non seulement les écouter, mais les voir dans leur environnement familier pour animer des émissions qu'on dirait aujourd'hui de proximité.
Et cette complémentarité dont vous parliez justement dans cette réponse, elle s'est faite comment, cette convergence dans le contexte suisse, ça c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, ou bien ces deux médias ont vraiment dû négocier pour pouvoir enterrer l'âge de guerre ?
Alors, c'est une histoire qui est évidemment une histoire tourmentée. D'une certaine manière, il y a très vite une convergence, qui est d'abord une convergence d'une certaine manière technologique, parce que ce sont des médias qui ont passablement d'analogie sur le plan technique. Et puis, il va y avoir une convergence qui est institutionnelle, c'est-à-dire que très vite, quand il s'agit d'imaginer quel contexte institutionnel va présider au développement de la télévision, c'est finalement le dispositif de la SSR qui va être privilégié. Donc il y a déjà une première convergence à ce niveau-là, et puis ensuite, on va voir durant toutes ces années des relations qui vont être des relations, encore une fois, à la fois de proximité, qui vont aussi se marquer par le fait que des collaborateurs, des collaboratrices passent d'un média à l'autre, qu'il y a également des réorganisations de l'organigramme qui vont faire qu'il va y avoir déjà des premières tentatives d'harmoniser, de coordonner d'une certaine manière la programmation à la fois radiophonique et télévisuelle. Donc ça, on le voit déjà dans les années 70 et on peut déjà parler d'une première grande convergence médiatique à cette époque.
Et justement, en parlant des années 70, on note plusieurs dates clés au cours du livre, des dates clés plutôt de crise. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de crise ? La création en 1931, c'était l'entre-deux-guerres où il y avait un petit peu parfois un risque de faire preuve de partialité, en tout cas en termes d'opinion publique. Mais on peut aussi citer beaucoup de critiques qui ont émergé en 1969, en 1971 et en 1972 où là également la partialité a été dénoncée en particulier par l'UDC et la classe bourgeoise. Il y a quelque chose en particulier dans le contenu et les émissions de cette radio-télévision qui dérangeait l'UDC et la classe bourgeoise, parce qu'on voit qu'il y a un retour justement de, on va dire, ces accros en 2026 avec la votation sur la redevance.
Tout à fait. Alors, bon, d'une part, il faut voir que la radio est déjà un média de masse au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La télévision va se développer de manière assez progressive. À la fin des années 60, la télévision devient également un média de masse. Et justement, ces enjeux politiques vont devenir exacerbés dans la mesure où la télévision va avoir un impact extrêmement fort. Fin des années 60, on est dans un contexte qui est le contexte post-68. La télévision, notamment, se développe de manière importante en bénéficiant notamment des débuts de la publicité à la télévision. 1965, la télévision a plus de moyens. Elle va accueillir également une nouvelle génération de journalistes plus politisés. Et à ce moment-là, il va y avoir des très grandes crispations, même si, comme vous l'avez dit, ces crispations, elles étaient déjà présentes à la radio dans la période de l'entre-deux-guerres. Mais au début des années 70, il y a véritablement un durcissement des fronts, avec en effet, du côté de l'UDC, une mobilisation très forte par rapport justement à de nouvelles émissions qui vont introduire à la fois des nouveaux sujets de société et qui vont amener un nouveau type de traitement de l'actualité.
Votre livre « 100 ans de radio-télévision » revient justement sur cette histoire de la radio-télévision. On a vu quand même qu'il y a un contexte qui change énormément en 100 ans, surtout un contexte en termes de support, de technique et d'habitude de consommation. Alors comment est-ce qu'on adapte l'histoire de ces médias aux enjeux actuels ?
Alors en effet, pour le dire très rapidement, c'est un livre d'histoire, mais l'histoire se base toujours sur des questionnements qui sont des questionnements ancrés dans le présent. Et finalement, j'ai saisi cette opportunité du débat autour de la redevance et de la votation pour essayer, disons, d'en délimiter les enjeux et justement de replacer ceux-ci dans une perspective historique de moyenne et de longue durée. Et donc, dans cette perspective, on voit qu'il y a un certain nombre de constantes, et les constantes, on les a juste abordées tout à l'heure, c'est en effet un certain nombre de pressions qui vont se manifester autour des enjeux politiques du service public, mais aussi à droite, mais aussi à gauche, dans la mesure où le service public est un producteur de consensus, et d'une certaine manière, une partie aussi des milieux de gauche juge que ce rôle est parfois trop accentué et confine aussi à une forme d'autocensure. Donc le service public, il est d'une certaine manière un peu partagé entre ces deux types de pressions. Mais ce qui va changer fondamentalement, c'est d'une part la globalisation et donc la démultiplication de l'offre avec justement de nouveaux canaux de diffusion, d'abord le câble, le satellite et puis ensuite évidemment Internet. Et puis un autre élément qui est au cœur du débat actuel, c'est finalement la question du financement. Parce que jusqu'en 2015, on paye pour avoir chez soi un récepteur radio, un récepteur de télévision. Et donc, on paye pour consommer ces médias. Et les choses vont changer à partir de 2015 avec ce qu'on appelle l'universalisation de la redevance, c'est-à-dire que tout un chacun doit payer pour en fait, le service public. Et ça, c'est mal compris de la part, justement, du public ou d'un certain public qui juge qu'il doit payer pour ce qu'il consomme et ce qu'il souhaite consommer. Et ça, ça marque justement une rupture et ça amène une grande partie, disons, des questions qui sont au cœur de la votation présente.
Alors, vous pensez justement que cette volonté de vouloir choisir ce qu'on consomme, c'est ce qui donne cette votation à laquelle on fait face en 2026 ?
C'est un facteur. Encore une fois, on voit notamment auprès d'un public jeune qui a l'habitude de pouvoir, d'une certaine manière, butiner ou pouvoir ne pas être lié à un seul média, et, un public curieux qui veut, d'une certaine manière, explorer différents formats et également différents médias. Cette idée que le service public, c'est un peu un corset, c'est d'une certaine manière une sorte de passage obligé qu'on n'a pas tellement envie de subir et dont le prix est quand même relativement élevé. Donc ça, c'est un élément qui reste important. Maintenant, il n'est pas le seul dans la mesure où on a parlé des enjeux politiques. C'est vrai que depuis une quinzaine d'années, le service public est remis en question dans tous les pays européens par des forces politiques qu'on peut classer comme populistes, proches de l'extrême droite, et qui se battent contre le service public pour des questions qui sont politiques et idéologiques. Alors, eux disent qu'en fait, il s'agit à la fois de maintenir le pouvoir d'achat de la population, qu'il s'agit de veiller à la liberté de choix des uns et des autres, mais ce courant réactionnaire est extrêmement fort, et il porte sur le service public comme finalement un élément d'un débat démocratique qu'on a envie de mettre un peu sous le boisseau.
Alors, on a justement mentionné le concept de l'impartialité qui a été critiqué à de nombreuses reprises, notamment dans les années 60 et 70. Oui. Est-ce qu'on est un petit peu sur la phrase « je suis pas d'accord » ou « j'aime pas ce qui est dit, donc j'ai pas envie de payer » est-ce qu'on peut presque parler de muselage ? Peut-être le terme est un peu fort.
Oui, alors encore une fois, ce service public, c'est quelque chose qui est assez particulier dans la mesure où, encore une fois, il y a une redevance et cette redevance, elle est liée à un cahier de prestations que les diffuseurs doivent respecter. Et donc, pour d'aucuns, encore une fois, il y a une sorte de devoir d'objectivité qui n'est pas réalisé. Il faut savoir que, en même temps, cette question de l'équilibre est inscrite dans la loi et que si on viole ce principe, on peut se retourner, disons, contre un certain nombre d'instances pour justement corriger ou pour dénoncer ce qui serait de parti pris. Donc encore une fois, le service public n'a pas un arbitraire complet dans sa conception même de l'objectivité. Celle-ci, elle est liée à un certain nombre de garde-fous, qui sont des garde-fous notamment constitutionnels et juridiques.
Alors vous avez mentionné aussi que le service public était un petit peu une porte d'entrée pour cette pluralité de l'information, du contenu. À terme, pour vous, ce serait quoi le rôle du service public dans cette pluralité des médias, dans cette pluralité de contenu, de sources ?
Alors encore une fois, il y a ces deux principes qui sont les principes cardinaux du service public. C'est d'une part le caractère non commercial, qui est un élément fondamental, et justement ce fait qu'on est lié à un cahier de prestations et donc à une programmation qui doit être au service de l'intérêt général. Donc encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que dans le modèle alternatif, qui est le modèle du pur marché, eh bien c'est les logiques commerciales qui priment. Et ces logiques commerciales, on le sait, pour travailler sur les médias, elles amènent à une forme d'homogénéisation, elles amènent également, justement, non plus à un partage équitable de la parole, mais finalement à son monopolisation pour des acteurs économiques qui sont des acteurs économiques puissants.
François Valoton, je rappelle que vous êtes historien et professeur et également l'auteur de 100 ans de radio-télévision qui aura sa soirée de lancement demain à l'Université de Lausanne, demain, avec une exposition création, la télévision suisse en 75 ans sous tension. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir.
Un plaisir partagé.
Radio Vostok. Écoute. Explore.